Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellicha.
À la une, le Hamas a diffusé la vidéo d'une otage israélienne, preuve de vie non datée d'une jeune soldate de 19 ans, alors que des milliers d'Israéliens ont une nouvelle fois manifesté pour obtenir une trêve et le retour de tous les otages détenus à Gaza. Des récompenses très politiques ont été décernées par Joe Biden, la prestigieuse médaille de la liberté, remise des mains du président américain à quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, une liste de noms faite pour agacer le camp Trump. Et puis Valence, victime des inondations en octobre dernier, sera au cœur de la fête de l'Épiphanie en Espagne. Des associations se sont mobilisées pour gâter les enfants de la région sinistrée. La vidéo non datée du Hamas dure 3 minutes et demie. Liri Halbag, otage israélienne de 19 ans, demande à son gouvernement d'agir pour obtenir sa libération. Une demande réitérée par des centaines de manifestants réunis, comme tous les samedis soirs, pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et le retour de tous les otages. À Jérusalem, Michel Paul.
Guerre psychologique pour certains, mais la famille de Liri Halbag demande à Benjamin Netanyahou de poursuivre la négociation jusqu'à la conclusion d'un accord qui permette la libération de la jeune soldate. La vidéo diffusée par le Hamas redonne un peu d'espoir aux proches des otages et aux dizaines de milliers de manifestants à travers le pays venus comme un hâte apporter leur soutien.
On pourrait espérer qu'il y ait un accord. Mais je n'y crois pas beaucoup. On aurait dû arrêter la guerre hier et ramener tous les otages avant-hier et vivants. On n'a pas besoin de Gaza.
Mais nombreux aussi sont ceux qui redoutent une fois de plus l'échec des pourparlers. Au dernier moment, l'activiste Orly Barlev accuse le premier ministre israélien de torpiller les efforts pour libérer les otages retenus à Gaza depuis 456 jours.
C'est quelque chose qui se produit à cause d'une personne, Netanyahou. S'il le voulait vraiment, il serait tout cela depuis longtemps. Pour des motifs criminels liés à sa survie politique, il sacrifie les otages, des civils et des militaires, nos frères et sœurs.
Israël a confirmé samedi soir la reprise des négociations indirectes avec le Hamas et la poursuite des efforts en cours pour libérer les otages. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
En attendant pas de répit à Gaza, plus de 30 personnes ont été tuées hier par des frappes israéliennes dans l'enclave palestinienne. En Syrie, la situation est loin d'être stabilisée, notamment dans le nord du pays. Selon l'ONG OSDH, les combats entre les groupes armés soutenus par la Turquie et les forces kurdes syriennes ont fait une centaine de morts ces deux derniers jours. L'objectif des factions pro-turques est de chasser les Kurdes de la région. Edmundo González Urrutia va faire étape aujourd'hui aux États-Unis. L'opposant vénézuélien compte ses soutiens avant de regagner Caracas vendredi prochain. Après l'Argentine et l'Uruguay, il doit rencontrer le président Biden dans la capitale américaine. Washington, comme Buenos Aires et Montevideo, ne reconnaissent pas la victoire de Nicolas Maduro à la présidentielle de juillet dernier, entachée de fraude. Son investiture est prévue le 10 janvier. Edmundo González Urrutia veut être à Caracas ce jour-là pour manifester, malgré la promesse de son arrestation par les autorités. Joe Biden a choisi d'attribuer avec un soin tout particulier la prestigieuse médaille de la liberté à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. L'encore président américain en exercice a décidé notamment de décorer la primatologue Jane Goodall, mais aussi George Soros et Hillary Clinton. La médaille de la liberté est la plus haute distinction civile américaine. À New York, Loubna Anaki.
Au total, 19 noms figurent sur la liste des personnalités que Joe Biden a choisi de décorer de la médaille de la liberté. Une distinction qui récompense, je cite, « les contributions exemplaires à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis » ou à la paix dans le monde. Alors bien sûr, il y a des célébrités comme le chanteur Bono, Lionel Messi, Magic Johnson ou encore Denzel Washington, mais Joe Biden a également fait des choix clairement politiques. Dans la liste figure par exemple George Soros, gros donateur du Parti démocrate et bête noire d'un grand nombre de Trumpistes. Il y a aussi Hillary Clinton, candidate malheureuse à la présidentielle de 2016 face à Donald Trump. Le républicain a à plusieurs reprises laissé entendre qu'il souhaitait l'envoyer en prison. Joe Biden remettra aussi à titre posthume une médaille à Bobby Kennedy, frère de John Kennedy et surtout père de Robert Kennedy Jr., le futur ministre de la Santé anti-vaccin et conspirationniste de Donald Trump. Difficile de ne pas voir dans ses choix un message envoyé à Donald Trump à 15 jours de son arrivée à la Maison-Blanche, surtout qu'un peu plus tôt dans la semaine, Joe Biden a aussi remis une autre distinction à l'ancienne élue républicaine Liz Cheney, elle aussi bête noire de Donald Trump. Lubna Naki, New York, RFI.
En Ukraine, un journaliste russe a été tué par un drone ukrainien. Alexander Martmianov travaillait pour le journal russe Izvestia dans la région de Donetsk, tenu par les Russes et bombardé par l'armée de Kiev. Au moins 15 journalistes ont été tués en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022. La région en pleine guerre doit aussi faire face aux conséquences d'une marée noire. 3 semaines après le naufrage de 2 navires pétroliers en raison d'une tempête, la pollution qui affecte le sud-ouest de la Russie et la Crimée continue d'affluer vers les côtes. Elle a atteint Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Lucille Gimbert.
Des nappes de mazout et des oiseaux couverts de fioul ont été découverts dans différents secteurs en Crimée, notamment près de Sébastopol, la principale ville de la péninsule. Mi-décembre, 2 vieux tankers russes ont fait naufrage lors d'une tempête dans le détroit de Kerch, situé entre la Russie et la Crimée annexée. C'est le point de passage entre la mer Noire et la mer d'Azov. Les navires contenaient à eux deux 9200 tonnes de pétrole et d'après les autorités russes, au moins 26% de cette cargaison pourrait s'être écoulée dans la mer. Quelques 200 000 tonnes de sol pourraient être affectées sur le littoral. Un désastre écologique a reconnu fin décembre Vladimir Poutine. Avant cela, des scientifiques russes avaient critiqué en conférence de presse la gestion de cette catastrophe par les autorités. Une prise de parole rare dans le contexte répressif qui fait rage en Russie. Des équipes de nettoyage et des bénévoles ont déjà retiré plusieurs dizaines de milliers de tonnes de sable contaminé sur le littoral russe. Mais il manque d'équipements et la guerre entre la Russie et l'Ukraine empêche les deux pays de coopérer comme ils l'ont fait par le passé pour endiguer des pollutions aux hydrocarbures.
Le scénario se répète en Europe. En Autriche, le chancelier conservateur a annoncé hier soir sa démission après l'échec des négociations avec les sociaux-démocrates pour former le nouveau gouvernement. Des négociations tripartites avec les libéraux qui avaient pour but de faire barrage à l'extrême droite arrivée en tête des législatives en septembre. Cette décision de jeter l'éponge pourrait entraîner des élections anticipées ou forcer les conservateurs à négocier avec l'extrême droite. En Espagne, la région sinistrée de Valence est mise à l'honneur à l'occasion de la fête de l'Épiphanie, fête chrétienne très suivie dans le pays. La nuit prochaine, comme le Père Noël le fait dans d'autres pays, les rois mages passeront pour laisser des cadeaux aux enfants espagnols. Et cette année, beaucoup d'initiatives ont fleuri pour porter une attention toute particulière à la région de la côte Est, frappée par de terribles inondations fin octobre qui ont fait 231 morts et des milliers de sinistrés. L'association G10, située près de Barcelone, a monté une de ces opérations de solidarité. Miguel Angel Serrano en fait partie.
Cette opération a commencé quand on a vu un enfant d'environ 7 ans, le regard perdu dans une rue. On s'est demandé comment nous pourrions aider à apporter un peu d'espoir dans ces villes. Alors on a contacté la mairie de Massanassa, l'une des communes les plus touchées. L'idée était qu'à l'école, les enfants écrivent une lettre au roi mage en leur demandant le cadeau qu'ils souhaitaient. On a contacté le seul magasin de jouets de la zone. Aujourd'hui, il est fermé, mais le propriétaire a été en mesure de trouver les 605 cadeaux. 120 pages royaux venus de la ville de Castelldefels, près de Barcelone, se déplaceront jusqu'à Massanassa pour distribuer les cadeaux dans la maison de chaque enfant. C'était déjà magique pour eux et on a senti que les enfants étaient dans l'attente des pages royaux. Et le fait de personnaliser à ce point-là donne beaucoup de dignité à cette action. Mais c'est un défi logistique car nous ne connaissons pas bien le territoire. Nous avons recours à des logiciels informatiques pour gérer toute la logistique et nous avons l'aide de l'armée qui met des camions à notre disposition.
Miguel Angel Serrano, joint par Pauline Glaise. Enfin, le film Emilia Pérez va-t-il confirmer son succès annoncé aux Golden Globes avant les Oscars ? Réponse ce soir lors de la cérémonie à Los Angeles. La comédie musicale de Jacques Audiard part favorite avec pas moins de 10 nominations, dont meilleur comédien, meilleur réalisateur et meilleure actrice pour Carla Sofia Gascón dans le rôle-titre. Emilia Pérez raconte la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'RFI.